Chapitre 2. Londres. Rien, en cette soirée du 19 août, n'incitait le policier Jackson à l'optimisme. Il était allé voir son médecin, qui avait haussé les épaules à la lecture des dernières analyses. « Pas très fameux tout cela. Il faut vous préparer à envisager une issue négative, monsieur, » avait-il lâché en regardant le plafond. Ce qui, traduit en bon anglais, signifiait que le cancer, le cercant, comme Jackson l'appelait pour le tenir à distance, gagnait du terrain. Invité à fixer la date de l'échéance, le praticien avait, comme d'habitude, haussé les épaules, ce qui voulait dire que l'échéance était proche. Une fois sorti du cabinet, Jackson regagna son bureau. Une autre mauvaise nouvelle l'y attendait. L'opération militaire sur Dieppe avait été un véritable désastre. Ce qui ne surprit pas le policier. Quand la politique s'en mêle, tout foire, songea-t-il. Or, c'était bien pour des raisons politiques que les Alliés avaient organisé cette sotte opération suicide. Il fallait faire plaisir à Staline, qui réclamait à grands cris l'ouverture d'un nouveau front. Il fallait faire une fleur à Mackenzie King, le premier ministre canadien, qui brûlait de voir son armée entrer dans l'histoire. Sans compter que le chef des opérations combinées, comme on disait dans le jargon du jour, était ce pan de Mountbatten. Tous ces gens-là, observait Jackson, n'en avaient rien à faire des milliers de morts et de blessés de Dieppe. Ils chercheraient même, sans aucun doute, à présenter cette boucherie comme une éclatante victoire et une indispensable répétition avant le grand débarquement, si tant est que celui-ci ait lieu un jour. Et les choses n'allaient guère mieux en Afrique du Nord. Le seul point positif, c'était que la bataille du désert risquait de sauver Malte. Les Britanniques en avaient désormais la certitude, les excellents parachutistes italiens de la division Folgore, qui s'apprêtaient à sauter sur l'île, allaient être utilisés en Cyrénaïque et en Égypte. Les Allemands, eux, semblaient reprendre du poil de la bête, et transportait du côté d'El Alamein les troupes, les chars et le carburant dont Rommel avait tant besoin. À côté de ces combats de titans où l'être humain ne comptait pas, l'opération Bushido, Jackson le savait bien, pouvait apparaître comme une aimable fantaisie. Winston Churchill n'était pas un militaire. Les grandes manœuvres et les bombardements étaient une chose. La guerre psychologique, domaine où les Anglais excellaient, en était une autre, à laquelle le Premier ministre accordait une extrême importance. Le colonel Barnes étant à Malte, c'est le commissaire Jackson qui assurait l'ultime préparation de Bushido. Quelques jours auparavant, il avait réveillé les quelques taupes qui, depuis 1939, se terraient au cœur du Reich. Au jour fixé de longue date, la nuit du 16 au 17, de brefs messages radio étaient partis de Londres. Il n'y eut que deux réponses. Le père Klaus Drucker, dans un monastère de Hörlingern, et Elisa Wagner, une ancienne universitaire de Fribourg. Jackson devait par ailleurs faire croire aux Allemands que Kurt Wolff, leur envoyé spécial en Égypte, était un agent double. Dans cette hypothèse, il leur serait plus facile d'admettre que Mgr da Silva, flairant un piège, ne lui avait pas remis en Égypte les sept piliers de la sagesse. Un message radio parti de Londres pour le Caire, afin de confirmer qu'une somme importante venait d'être livrée sur le compte bancaire ouvert en Suisse au nom de Kurt Wolff. Un autre message, tout aussi fantaisiste, donnait l'ordre aux Anglais du Proche-Orient d'arrêter un certain Mario da Silva, soupçonné d'espionnage pour l'Allemagne. Dans cette bataille des ondes, les Britanniques étaient de loin les meilleurs, puisqu'ils possédaient la clé des codes allemands. Tout semblait donc prêt pour la dernière phase de Bushido. Dans quelques jours, si tout allait bien, Christen et Tapa seraient en Italie. Berlin. Dans un étroit bureau de 20 mètres carrés, au quartier général de la Wehr, un gringalet à lunettes d'écaille s'apprêtait, sans le savoir, à jouer un rôle essentiel dans le destin de l'opération Bushido. Son physique insignifiant était à la hauteur de son intellect. On lui avait donné, par commodité, le grade d'Unterfeldwebel, c'est-à-dire de sergent-chef. Rudolf Breuer était né 50 ans plus tôt dans l'île de Rügen, sur la côte de la Baltique. De ce hasard géographique, il conservait une âme insulaire, se méfiant de tous ceux qui étaient étrangers à son territoire. De 1912 à 1914, il avait été professeur dans un médiocre lycée de Bavière. Mais le seul souvenir qu'il laissait de son court passage dans l'enseignement était celui de ses pantalons trop larges flottant sur un corps dégingandé. Mal à l'aise dans une salle de classe, il se reconvertit dans la pédagogie abstraite, puis ses ouvrages ne se vendant pas, dans l'administration, où il s'épanouit à plein, trouvant plaisir à vérifier et revérifier ce que faisaient ceux qui, en somme, étaient sous ses ordres. Avec un soin jaloux, il contrôlait le nombre de bâtons de craie, de trombones et de ramettes de papier que chaque professeur utilisait. Après les cours, il passait dans les classes pour éteindre les lumières et fermer les fenêtres. Il fallut signer un document en 2 exemplaires pour obtenir une clé. Même pour les choses les plus insignifiantes de la vie quotidienne, la voie hiérarchique devint une loi absolue. Toute commande de matériel, toute autorisation d'absence, tout ordre de mission passait entre ses mains et subissait une analyse tatillonne. Le document repartait revêtu de sa griffe et estampillé d'un vigoureux coup de tampon rouge. Breuer était bègue, ce qui ne le gênait guère, car il parlait peu. Son harcèlement administratif se manifestait par écrit. Il aimait rédiger de longues exhortations à l'économie qu'il signait d'un « Docteur Rudolf Breuer », rappelant ainsi la médiocre thèse de doctorat qu'il avait soutenue sur les missions administratives du Florentin Francesco Guichardin, 1483-1540. L'ancien pédagogue se flattait d'aimer la littérature, depuis que le hasard lui avait fait rencontrer sur son île, à l'âge de 13 ans, un certain E.M. Forster, lequel allait bientôt devenir célèbre. Ennemi personnel du tabac et de l'alcool, Breuer traquait poussières et microbes avec la rage d'un grand inquisiteur. Fuyant le contact humain, il limitait la durée de toute visite. Dès qu'un intrus pénétrait dans son antre, il donnait un coup de pouce au sablier qui trônait sur son bureau. Chacun savait qu'aucune entrevue avec Breuer ne devait dépasser 3 minutes. « Zeit ist Geld », répétait-il. « Le temps, c'est de l'argent ». Quand la guerre éclata en 1914, le bègue se retrouva dans l'intendance et y fit preuve de grande qualité de gestionnaire, évitant du même coup d'être expédié au front. Mais c'est avec la montée du national-socialisme qu'il eut enfin l'occasion de s'épanouir. En juin 1919, il fut l'un des premiers à rejoindre les rangs du nouveau parti. En décembre 1920, on lui confia la correction des épreuves d'imprimerie du Völkischer Beobachter, le journal qui allait apporter la bonne nouvelle au peuple germanique. Breuer ne se contenta pas de faire la guerre aux coquilles. Il lança une croisade contre le gaspillage, se remit à compter les trombones et vérifia à la loupe, sur des cartes d'état-major, le kilométrage qui figurait sur les notes de frais. Il resta au journal jusqu'en 1935, quand Wilhelm Canaris le fit entrer à l'Abwehr. Devenu contrôleur général et cumulant dans la pratique les fonctions d'agent comptable, vérificateur des comptes, grand intendant et régisseur, il fit tout converger vers son bureau. De nature servile, le docteur Breuer cherchait à imiter les hauts dignitaires du Reich, arborant la même moustache que le Reichsführer Himmler, les mêmes lunettes d'écaille que Canaris, la même cravate noire que Goebbels. Il acheta à prix d'or l'édition originale de Mein Kampf et se mit à boire de l'eau de Fachingen quand il découvrit que le Führer en consommait. Bien que dépourvu de tout sens artistique ou littéraire, il apprit le violon pour ressembler à Heydrich et fut en 1929 l'un des tout premiers lecteurs de Michael, le roman de Goebbels. On ne lui connaissait aucune relation, sinon avec sa mère âgée, qui se disait mourante depuis 40 ans. Il vivait à l'économie dans un minuscule appartement. En ce chaud matin du 20 août, Rudolf Breuer poussa un petit gloussement de satisfaction, celui qu'il émettait dès qu'il découvrait un devis non respecté, une note de frais trafiquée, un kilométrage inexact, une ligne budgétaire bafouée. Certes, il pouvait s'agir d'une erreur de frappe, mais si tel était le cas, il conviendrait de s'en assurer. Une note confidentielle indiquait que depuis son dernier contrôle, 112 passeports de service avaient été attribués à l'Abwehr. Ces précieux documents étaient rangés dans un coffre dont seuls quelques élus connaissaient le code, car les Ausweis étaient distribués au compte-gouttes. Quand un nouveau passeport était établi, un bon de sortie en 2 exemplaires devait être signé par un chef de service, puis contresigné par le docteur Breuer. Le dernier décompte indiquait que 65 passeports avaient été remis à des agents de l'Abwehr. Il devait donc en rester 47 dans le coffre. Mais il n'y en avait que 46. L'ancien pédagogue venait de le vérifier lui-même en présence de 2 témoins. Comme à chaque fois qu'il se trouvait confronté à un grave problème administratif, Breuer ressentit dans le bas-ventre les premiers frissons du plaisir. L'explication la plus simple était l'erreur humaine. Un employé ou une secrétaire pouvait s'être trompé en établissant le bordereau de livraison, dactylographiant 112 au lieu de 111. C'était cependant peu vraisemblable, puisque le nombre des passeports était vérifié par 2 personnes. Seconde possibilité. Négligeant la voie hiérarchique, seule garante de sérieux, un chef de service pouvait avoir remis un Ausweis sans l'autorisation de ses supérieurs. Cela était déjà arrivé une fois, et le responsable s'était retrouvé sur le front russe. Il méritait pire, mais Canaris était un faible. La troisième hypothèse était beaucoup plus inquiétante. Un traître, à l'intérieur même de l'Abwehr, s'était emparé du passeport. Ce qui voulait dire qu'il avait pu aussi mettre la main sur d'autres documents, ordres de mission et timbres de service. Breuer ouvrit un tiroir et en sortit une chemise de carton vert. Une liste indiquait l'identité des hauts responsables connaissant la combinaison du coffre. Il y en avait 25, de Wolfgang Ablauf, du service des archives, à Martin Wurz, le préposé aux affaires indiennes. L'Allemand poussa un soupir de découragement. 25 personnes. C'est à cause de telles erreurs, pensa-t-il, que se perdent les guerres. Il ne faut jamais diluer les responsabilités. Il se saisit d'un papier à en-tête et prépara son encreur rouge. Une note urgente s'imposait. Elle remonterait au plus haut niveau par la voie hiérarchique. Cela prendrait du temps, certes, mais il convenait de se protéger, puisque lui-même faisait partie des 25 privilégiés. Breuer demanderait une enquête interne et suggérerait de réduire l'accès au coffre. Il démontrerait ainsi, une fois de plus, que l'administration était le nerf de la guerre, la clé de la victoire. Si les Français avaient été écrasés en 1940, c'est parce qu'ils manquaient de rigueur administrative et privilégiaient les parlottes. Et si les Anglais venaient, le Führer en soit loué, d'échouer à Dieppe, c'est parce que leur opération reposait sur des rêves, non sur des réalités. Seuls les fonctionnaires ariens étaient capables de tout prévoir. Du moins en principe, car il y avait encore quelques incompétents. Résultat, l'intendance ne suivait pas, et c'est pourquoi le maréchal Rommel se trouvait bloqué, faute d'essence, à quelques lieues des bords du Nil. L'homme eut un sourire de satisfaction. Cette histoire de passeport apportait, tout compte fait, de l'eau à son moulin. Il en profiterait pour demander plus d'administration, de contrôle, de vérification, de coups de tampon, d'autorisation et de signature. Il se saisit de son stylo et commença à écrire de son écriture minuscule, prenant bien soin de commencer tout en haut de la page afin d'économiser le papier. Chancellerie du Reich. Blondi, le berger allemand du Führer, venait quêter une caresse auprès de son maître. Celui-ci ne repoussa pas sa chienne. En cette fin d'après-midi, il se sentait en veine de tendresse et se prit à rêver aux jours heureux qu'il passerait bientôt à Linz, sur les bords du Danube, une fois quitté la vie politique. Il y mènerait une vie simple et frugale avec Eva Braun et Blondie. Sa cuisinière végétarienne leur mijoterait de bons petits plats comme il les aimait. Il se remettrait au dessin, préparerait une nouvelle édition de Mein Kampf, rédigerait ses mémoires, lirait des romans policiers, recevrait quelques fidèles. on évoquerait les heures difficiles qui avaient précédé la victoire définitive du Reich. Hitler dormait de plus en plus mal et ne se couchait guère avant 4 heures du matin. C'est qu'il y avait encore beaucoup à faire avant d'écraser la coalition des Alliés. Mais les Allemands allaient gagner, de cela il ne doutait pas. Certes, les nouvelles n'étaient pas toutes bonnes. Les troupes piétinaient en Russie et en Afrique du Nord, la faute à ses bureaucrates et à ses généraux, incapables de prévoir avec précision les quantités d'armement, de munitions et surtout de carburant nécessaires à ses troupes. Mais les usines tournaient à plein et de nouvelles armes seraient bientôt prêtes. La juiverie était sur le point d'être éliminée en Europe. On allait pouvoir passer aux choses sérieuses, comme cette construction du Grand Dôme qui, sous sa vaste coupole, accueillerait un jour prochain la plus grande salle de réunion du monde. Hitler en rêvait depuis un quart de siècle, en avait crayonné les premières esquisses que Speer, le jeune architecte du Reich, s'était contenté de reprendre. En 1950 au plus tard, Berlin serait la plus belle capitale du monde. En attendant, il fallait accepter les revers comme de simples étapes avant la victoire finale. À côté de ces broutilles, les succès étaient nombreux. Les panzers venaient d'atteindre le puits de pétrole de Maïkop en URSS, et dans quelques heures, la croix gammée flotterait sur le mont Elbrus, au cœur du Caucase. Demain, Hitler n'en doutait pas, Rommel gravirait les marches qui le conduiraient au sommet de la Grande Pyramide. Puis le maréchal poursuivrait une marche triomphale à travers le Proche-Orient, entrerait en Palestine, le berceau des Juifs, et traverserait la Perse. Un jour plus lointain, sans doute, les troupes allemandes feraient leur jonction avec les Japonais. Il serait facile d'encercler l'Inde, cette Inde à laquelle tous les conquérants avaient rêvé, d'Alexandre le Grand à Napoléon. Cette Inde qui était en outre un merveilleux symbole, puisqu'elle avait donné le svastika à l'Allemagne. Dans quelques instants, justement, le Führer allait recevoir le SS Gruppenführer Wilhelm Keppler, sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, chargé des affaires spéciales, l'homme à qui Hitler avait confié le bureau spécial de l'Inde, le Sonderreferat indien. Keppler était aux côtés de Ribbentrop quand le leader nationaliste, Subhas Chandra Bose, avait rencontré le chancelier quelques semaines auparavant. Dans la pratique, le sous-secrétaire d'État déléguait cette tâche à Adam von Trott zu Solz, un aristocrate qui connaissait bien l'Asie. Ce qui n'était peut-être pas une très bonne idée, car pouvait-on faire confiance à ce von Trott? Le Führer avait été fort irrité d'apprendre que cet individu était l'ami personnel de Stafford Cripps, l'envoyé spécial de Churchill, chargé de dénouer la crise politique en Inde. Hitler avait peu de temps à consacrer à Keppler. Dès que celui-ci entra dans son bureau, le Führer le fit asseoir et lui demanda où en étaient les choses. Le sous-secrétaire d'État savait que le chancelier n'aimait pas les Indiens, mais qu'il avait un certain respect pour Chandra Bose, en qui il avait décelé les qualités d'un chef. « Oui, on peut lui faire confiance, » commença Keppler. « Sa femme est d'ailleurs autrichienne. Allemande, » corrigea Hitler. « Veuillez pardonner mon lapsus, » reprit le sous-secrétaire d'État. « Le fait est que Herr Bose est hostile à certaines de nos thèses, mais il hait les Britanniques. » Ce qui pour nous est très positif. Ce qu'il souhaite, c'est une reconnaissance plus officielle. Hitler secoua la tête. Il n'avait que faire de Bose. Le national-socialisme s'adressait aux races supérieures, ce que le Führer rappela sèchement. Les renseignements que nous avons sur lui restent bons, poursuivit Keppler. Nous le surveillons en permanence, ainsi que sa femme et son professeur d'allemand. Le Reichsführer Himmler le fait aussi surveiller, bien sûr, ainsi que l'amiral Canaris. Hitler regarda sa montre. Il avait déjà perdu trop de temps avec ses affaires indiennes, et son avion l'attendait. Le mieux serait de se débarrasser de ce Bose, dont la place était à Singapour ou à Tokyo. Là, les Japonais pourraient l'accueillir et le nommer gouverneur des îles Andaman. Il suffirait d'organiser son transfert par avion ou par sous-marin. Le plus tôt serait le mieux. En attendant, force était d'admettre que l'Indien rendait quelques services. Le docteur Goebbels disait le plus grand bien de ses émissions à la radio. Mauvais pour le moral des Anglais, et sans aucun doute très irritant pour cet ivrogne de Churchill. Le Führer regarda de nouveau sa montre. Comprenant que l'entretien était terminé, Kepler se leva. La rencontre n'avait pas duré 5 minutes. Rome. La nouvelle entrevue entre Adrian Foster, l'agent de Paternoster en Italie, et Mgr Luigi Borghese, l'éminence grise du secrétariat d'État au Saint-Siège, se déroula en ce chaud début de soirée près de la fontaine de Iuturna. Dans la lumière tamisée du jour finissant, les ruines semblaient peuplées de fantômes. Par un curieux hasard, c'est à ce forum romain que le jeune Luigi Borghese, qui envisageait alors une carrière de professeur d'histoire, avait consacré jadis une thèse de doctorat. Le lieu de rendez-vous lui rappela, s'il en était besoin, la fragilité de tous les empires. Seule l'Église était immortelle. Il ne restait que quelques jours avant l'arrivée de Christian Lloyd et de Toulbahadur Tapa, et le temps pressait pour mettre au point les derniers détails. « Tous les documents seront prêts, » murmura le prélat, en allumant la Pléiade que Foster venait de lui offrir. « Pour le passeport, j'ai besoin de quelques photos du chauffeur. » L'Irlandais sortit d'une enveloppe de sa poche et la lui remit. Les clichés venaient tout juste de lui parvenir de Lisbonne. Il précisa par ailleurs ce que Londres avait décidé. Il était peu crédible qu'un diplomate du Vatican eût un chauffeur indien ou népalais. Pour les besoins de Bushido, le Gurkha deviendrait somalien. Qui, en Italie ou en Allemagne, ferait la différence entre un népalais de Dankuta et un somalien de Mogadiscio? Les liens anciens entre l'Italie et sa lointaine colonie d'Afrique rendaient tout à fait possible le recrutement par le Vatican d'un chrétien de la Somalie italienne. D'autant que l'homme était muet. Une telle infirmité allait susciter un frisson de solidarité chrétienne chez les Italiens. « Tous les détails sont sur ce papier, » poursuivit Foster. « Pour les besoins de l'opération, nous avons rajeuni Tapa de 10 ans. Où en sommes-nous pour la voiture ?» Borghese eut un large sourire. « Nous avons beaucoup de chance. Un de mes confrères diplomates, le prince et cardinal Casimiro de Carlo Aliatta, entre à l'hôpital le 2 septembre. » Une opération bénigne, mais elle nécessitera une bonne semaine d'hospitalisation. Pietro, son chauffeur, est l'un de mes neveux. Il hésita un instant. « Un de mes neveux siciliens, » poursuivit-il, « ce qui signifie qu'il est ouvert à toute proposition financière. Il simulera une panne en revenant de l'hôpital, et la voiture se retrouvera en lieu sûr. Une superbe voiture, entre parenthèses. Une Hispano-Suiza à 6 cylindres, 140 chevaux, un des plus beaux modèles, celui de 1936. » L'Irlandais émit un sifflet d'admiration. « Le Vatican ne se refuse à rien. Mon bon confrère appartient à une noble famille de Toscane. Même cardinal, il entend tenir son rang d'aristocrate. Mais revenons-en à mon neveu bien-aimé. Une fois son forfait accompli, il filera vers Palerme et disparaîtra dans la nature. Bien entendu, il faudra payer. » Foster acquiesça. « Nous y pourvoirons, Luigi. »« Fort bien. Vos hommes disposeront d'un créneau de quelques jours pour quitter l'Italie et gagner Berlin. Sauf imprévu, personne ne s'apercevra du vol de la voiture avant le 14 ou 15 septembre. À quelle date arrivent vos invités ?» L'Anglais hocha la tête. « Vers le 30 août. »« Ah, mon cher Luigi, n'oubliez pas que nous aurons besoin d'un excellent tailleur. » Celui-ci aura quelques jours, tout au plus, pour tout préparer. Le tailleur est prêt, un Sicilien lui aussi. Un peu cher, bien sûr, mais vous aurez la qualité. Il faut ce qu'il faut, surtout avec une Hispano-Suiza. Et le Saint-Père ? Demanda soudain Foster. Et si nous parlions d'autre chose ? Répondit Borghese. De nos accords financiers, par exemple. Foster sortit une deuxième enveloppe de sa poche. « Voici pour vous, Luigi. Simple avance sur vos frais. Cela va de soi. Vous trouverez aussi une lettre personnelle signée de Winston Churchill. 1 million de livres sterling en lingots d'or, comme convenu. Pour vos bonnes œuvres. À mettre en lieu sûr. » Borghese enfouit le pli dans l'une des nombreuses poches de sa soutane. Il ne lui vint pas à l'esprit que la lettre était un faux. Foster, après tout, était un catholique irlandais, pas un de ces hypocrites d'anglicans. On pouvait lui faire toute confiance. Fribourg en Brisgau, Allemagne. À l'heure où le père Klaus Drucker s'agenouillait pour une dernière prière, Elisa Wagner leva son verre de whisky et trinqua avec la vieille femme que reflétait son miroir. Elle buvait trop, elle le savait. Mais trop par rapport à quoi? La vie n'avait plus de sens depuis ce jour de novembre 1936 où des SS avaient abusé de Magda. 6 semaines plus tard, la femme se jetait du haut d'un viaduc. Personne ne la remplacerait. Et dès lors, tout devenait sans importance. Elisa Wagner était blonde, boitait de la jambe gauche, rêvait en grec ancien et se flattait d'être lesbienne. La couleur de ses cheveux la protégeait, sa luxation de la hanche ne tombait pas sous le coup de la loi. Mais son intérêt pour la Grèce antique était plus suspect. Ses goûts contre nature constituaient en revanche une tare sévère. Le devoir d'une femme est d'être mère. Née en 1900 au cœur du vieux Fribourg, à quelques pas de la fontaine d'Oberlinden, Elisa appartenait à une riche famille catholique de tanneurs installés dans la cité depuis des siècles. Son père se prétendait le lointain cousin du musicien Richard Wagner. Elle-même savait qu'il n'en était rien, mais elle ne tarda pas à découvrir que son nom, pourtant bien banal, impressionnait les imbéciles. Sa thèse de doctorat sur la Grèce antique lui valut en 1930 un poste à l'université de Fribourg. C'était l'époque bénie où tout lui réussissait. Enfant unique, elle disposait de la fortune considérable de ses parents, possédait une vaste propriété du côté de Kirchenhausen et une petite maison près d'Athènes, passait toutes ses vacances en Grèce et s'accordait de longs week-ends à Berlin. Le couple Elisa-Magda était un des plus connus du Montbijou. Elisa détestait la politique, qui, selon elle, devait être laissée aux hommes. Il lui importait peu de savoir si le gouvernement était entre les mains d'un charron, d'un joueur de violon, d'un maréchal ou d'un aquarelliste, puisque, à ses yeux, il n'y avait aucune différence. Les premiers défilés du Parti national-socialiste la firent sourire. Pour elle, les hommes étaient de grands enfants qui aimaient les uniformes, les décorations et les roulements de tambour. Elle commença à s'inquiéter quand elle vit que les cafés qu'elle fréquentait à Berlin fermaient les uns après les autres. Puis, du jour au lendemain, plusieurs de ses collègues, qu'elle pensait être des scientifiques, basculèrent dans la déraison. Les gens cultivés, peu nombreux à l'université, il est vrai, devinrent suspects. C'est d'ailleurs tout naturellement à un pédagogue raté que le chancelier Hitler confia dès 1934 le ministère de la science, de l'enseignement et de la culture populaire. Quand il fallut s'inscrire à la Ligue nationale socialiste de l'enseignement et jurer fidélité au Führer, Elisa Wagner préféra quitter l'université. Elle eut la prudence de le faire pour raisons médicales. À terme, expliqua-t-elle, sa luxation de la hanche allait la clouer sur un fauteuil roulant et elle voulait profiter du peu de temps qui lui restait à vivre. Elle ne manqua pas aussi de préciser que ce départ lui permettrait d'écrire enfin la biographie de son cousin Richard Wagner, biographie qu'elle envisageait, bien sûr, de dédier au Führer. Persuadée qu'elle avait de hautes relations à Berlin, ses anciens collègues feignirent de la regretter. Ils n'osaient même plus ironiser sur sa hanche depuis le jour où l'un d'entre eux leur avait rappelé que Goebbels avait un pied beau et que dès lors ce genre de plaisanterie n'était pas de mise dans l'Allemagne nouvelle. Elisa envisageait de quitter son pays pour la Grèce quand sa mère tomba gravement malade. Elle détestait cette mère qui ne lui avait donné la vie que pour l'empoisonner ensuite, mais en bonne allemande, elle avait le sens du devoir. Elle resta donc. Sa mère mourut 2 ans plus tard, 2 ans trop tard. Par un heureux hasard, Elisa retrouva à Berlin un journaliste américain, envoyé spécial permanent d'un quotidien de Boston, qu'elle avait jadis connu à Athènes. Le reporter faisait partie de la petite communauté américaine restée en Allemagne après le début de la guerre. Bien informé, il fit découvrir à Elisa ce que le Völkischer Beobachter ne disait pas. Elle s'en voulut d'avoir été aussi naïve. L'Américain travaillait pour les services de renseignement anglais. Il la recruta et lui fit parvenir un poste de radio qu'elle cacha dans son grenier. Le journaliste réussit à passer en Suisse le 7 décembre 1941, le jour de Pearl Harbor. Elisa était sur le quai de la gare de Fribourg pour lui dire au revoir. Quelques heures plus tard, tous les Américains vivant en Allemagne étaient arrêtés. Et voici que soudain, après des mois de silence, le poste de radio était sorti de sa léthargie. Elisa, nom de code Violette, se servit un nouveau verre de whisky. Elle allait enfin pouvoir venger la mort de Magda, la seule personne qu'elle eût jamais aimée.